Voilà, nous allons commencer donc cette deuxième conférence donc, pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir ici même Julius Krobocek, donc, qui est chercheur en informatique donc, au laboratoire PPS à Jussieu et qui est également développeur donc, de logiciels libres. Et donc, au cours de cette conférence, il va aborder les aspects relatifs à la tâche, aux tâches diverses et variées des développeurs de logiciels libres. Voilà. Ben Julius, c'est à toi.
C'est mieux, là ? Alors, si vous réfléchissez aux objections qu'on peut faire au libre, ces objections, on les entendait. Aujourd'hui, les gens se sont un petit peu tus, les gens qui objectent à ça se sont un peu tus, parce que le logiciel libre existe, c'est une évidence. Mais à une époque, quand c'était moins connu, on vous disait déjà, jamais vous n'arriverez à trouver des gens compétents qui voudront programmer pour vous. Et puis en plus, et puis quand on vous disait, ben si, il y en a, il y a machin, il y a bidule, on vous répondait, oui, mais ça, c'est des gens, ils sont payés gratis, vous ne les trouverez jamais. Alors ça, je ne vais pas insister dessus, parce que vous savez bien que ce n'est pas vrai. Il y a une armée d'étudiants, il y a une armée de gens qui ont des métiers par ailleurs, qui travaillent sur le logiciel libre pendant leur temps libre. Alors parfois, c'est des gens qui sont tout à fait satisfaits de leur métier par ailleurs. Parfois, c'est des gens qui s'emmerdent un petit peu au boulot. Donc par exemple, des étudiants qui sont un peu trop brillants pour les études qu'ils font. Ou bien des gens qui ont un boulot de technicien qui les amuse moyennement et qui, en fait, pourraient très bien avoir un boulot d'ingénieur, mais pour diverses raisons, ils ne l'ont pas. Donc ils s'ennuient un petit peu au boulot et ils veulent faire des choses un petit peu plus ambitieuses. Je ne vais pas insister là-dessus. La deuxième objection, elle me semble un petit peu plus réaliste, c'est l'objection que les développeurs, je veux dire ceux d'entre vous qui sont développeurs le savent sans aucun doute, les développeurs, ce sont tous des prima donna. Chacun a ses idées, chacun sait dans quelle direction il veut aller. Dans l'industrie, ça se gère très facilement, il y a l'autorité du chef, c'est moi qui vous paye, je vous dis ce que vous allez faire. Dans un cadre dans lequel les gens, pour la majorité, sont bénévoles, c'est beaucoup plus compliqué. Alors l'expression anglaise pour ça, c'est « herding cats ». Faire un projet de logiciel libre, ça ressemble un petit peu à faire un troupeau de chats. Ce n'est pas toujours très facile. Et puis, la troisième objection, qui est un petit peu liée à la deuxième, c'est, écoutez, vous n'arriverez jamais à vous coordonner. Déjà nous, ça c'est les informaticiens typiquement qui vous disent, déjà nous, on a des réunions tous les 3 jours au boulot, on se voit de vive voix, on se connaît depuis toujours, on s'engueule à la machine à café. Et puis vous, vous voulez monter un projet à travers l'Atlantique, à distance. Comment est-ce que vous allez faire pour communiquer? En plus, vous n'êtes même pas dans les mêmes fuseaux horaires. Eh bien, on y arrive quand même. Alors, j'ai essayé de chercher pourquoi ça marchait bien. Et moi, je crois que ça marche surtout bien parce qu'on a les bons outils de développement. Et nos outils de développement, les plus importants, donc je cherchais un petit peu ceux qui résolvaient effectivement ces problèmes-là, c'est tout d'abord le chef de projet, un gars super charismatique qui séduit tout le monde, qui arrive à faire bosser tout le monde ensemble, le release manager, j'en dirai quelques mots, et puis des moyens, des outils de développement un peu plus techniques, qui sont la liste de diffusion par courrier, le chat, et typiquement on utilise une technologie de chat qui s'appelle l'IRC, et puis un certain nombre d'outils, d'un côté diff et patch si on veut rester dans le manuel et dans l'automatique, le système de contrôle de révision. Et ces choses-là, c'est ce qui nous permet de fonctionner ensemble, de communiquer. Alors je vais un petit peu structurer mon exposé comme ça, je vais vous parler de ces choses-là, dans cet ordre-là. Mais tout d'abord, au cas où vous vouliez retrouver dans les projets que vous connaissez ce que je dis, je voudrais vous prévenir qu'il existe 2 types de groupes de logiciels. Il y a d'abord ce que j'aime bien appeler les groupes monolithiques. Donc les groupes monolithiques, c'est un certain nombre de personnes qui sont en train de travailler sur un logiciel. Le groupe n'a pas vraiment de structure, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a un groupe où les gens travaillent ensemble. Et ces groupes, ils ne sont pas bien gros. Moi, je n'en connais pas de groupe qui dépasse les 20 développeurs. Ça va de 1 à 20 développeurs. Même les projets les plus gros que vous connaissez, quand ils sont structurés de façon monolithique, ils restent assez petits. Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens parce qu'il y a plein de gens qui tournent autour. Il y a plein de supporters, de qubits, qui sont en train de tourner autour, qui sont en train de donner des conseils. parfois bon, souvent moins bon, d'intervenir, de se permettre d'expliquer aux développeurs comment il faut faire les choses. Mais non, tu n'as rien compris, il faut absolument faire du XML. Non, tu n'as rien compris, il faut absolument traduire tout en code en C++, etc. Ou parfois, des gens, ouais, j'ai déjà fait ça, c'est comme ça qu'il faut faire, et on se rend compte qu'il a raison. Et donc, si vous regardez le groupe sans connaître les gens, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus gros. Donc, le projet le plus gros auquel j'ai participé, c'était X386, qui était l'ancêtre de Xorg, le projet qui s'occupait du serveur X, et on était vraiment en développeur actif. Je crois qu'on n'a jamais dépassé les 17-20 personnes. Mais il y avait des milliers et des milliers, des centaines et des centaines de personnes sur la mailing list qui participaient, qui nous aidaient, qui nous donnaient des conseils, qui allaient voir dans les entreprises pour voir s'ils arrivaient à trouver des documentations, du matériel, etc. Et puis, il y a d'autres groupes. Alors, je n'ai pas de bon terme pour ça. Je vais les appeler les groupes parasols. Ce sont des groupes dans lesquels le groupe, celui qui est visible de l'extérieur, ce n'est pas celui qui développe. En fait, au sein de l'organisation qui est visible pour l'extérieur, il y a un certain nombre de petites organisations. Le cas typique, c'est celui, par exemple, de KDE. Donc, dans KDE, vous avez le projet KDE. Et puis, si vous demandez à quelqu'un, mais tu travailles sur quoi ? Il sait précisément sur quoi il travaille. Il travaille sur tel logiciel de la suite KDE. S'il est en train de travailler sur KOffice, eh bien, il connaît à peine les gens qui travaillent sur Camel. Donc ça, ce sont des fédérations de groupes de développement. Et puis, il y a un chapeau dessus qui est celui qui est visible pour le public. Et puis, il y a des groupes qui ne rentrent pas là-dedans, que je vais appeler hybrides. Par exemple, Linux. Donc Linux, le noyau Linux, pas le système d'exploitation GNU Linux. C'est un groupe dans lequel il y a une certaine quantité de développement au sein du projet Linux. Mais la plupart du boulot se fait dans des projets qui sont chapeautés par Linux. Donc, par exemple, si vous avez envie de participer au développement d'un driver réseau ou si vous voulez implémenter un nouveau protocole réseau, si vous allez voir la mailing list de Linux, ils vont vous dire ben, « ce n'est pas nous qui nous en occupons de ça ». Ça, c'est le groupe réseau Linux qui a sa mailing list, qui a son infrastructure, qui a son chef, etc. et qui ne fait pas vraiment partie de Linux. Et en même temps, il y a des parties, par exemple la mémoire virtuelle de Linux, qui se font au sein du groupe Linux lui-même. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je vais vous raconter, ça s'applique au groupe monolithique et pas forcément à ces structures différentes. Donc je vais revenir à mes outils de développement et je vais commencer à parler du chef. Alors le chef, c'est souvent celui qui est visible, c'est souvent celui dont vous connaissez le nom. Alors, il y a un nom que vous connaissez sans aucun doute, c'est Linus Torvalds, qui est le chef du projet Linux. Un autre nom que vous connaissez sans aucun doute, c'est Richard Stallman, qui est le chef, vous pensez à un nom de projet, je ne suis pas d'accord, qui est le chef du projet Emacs, en pratique. Il y a aussi une organisation qui s'appelle l'AFSF, mais l'AFSF, c'est quelque chose qui est purement parasol, qui n'a pas du tout. Alors, le chef, c'est important. Le chef, c'est ce qui fait le succès d'un groupe de logiciels libres. C'est quelqu'un qui doit avoir une personnalité qui fait qu'il est accepté par quasiment tous les développeurs. Alors parfois, il y a des gens qui n'aiment pas le chef, mais c'est très, très, très exceptionnel. Le chef, il faut qu'il s'entende avec tout le monde, il faut qu'il arrive à expliquer sa politique à tout le monde, qu'il convainque les développeurs d'aller dans la bonne direction. Il n'a aucun moyen d'action, il ne peut pas dire « je te vire » parce qu'il est en train de payer personne, typiquement. Et le terme pour le rôle du chef, pour la façon, pour l'approche d'un bon chef, Linus Torvalds a trouvé une très belle expression, l'expression « dictateur bienveillant ». C'est lui qui dit ce qu'il faut faire, mais c'est un dictateur qui arrive à convaincre ses développeurs que ce qu'il est en train de dire de faire, bah, c'est la bonne voie. Alors, si le consensus qui est établi autour du chef est brisé, bah, il y a un mécanisme pour résoudre le conflit, qui est le mécanisme de fork, où le projet se sépare en deux projets parallèles. Alors, il y a des cas dans lesquels le fork dure indéfiniment. Vous connaissez sans aucun doute le cas Emacs-XEmacs, où il y avait un désaccord entre Stallman et Zawinski. Et 15 ans plus tard maintenant, il y a encore deux projets parallèles qui font à peu près la même chose et qui se détestent cordialement entre eux. Il y a le cas où l'un des deux projets, où le projet jeune meurt. Alors, je ne vais pas vous en parler parce que normalement, on n'en entend plus parler. Et puis, il y a aussi des cas dans lesquels c'est le projet d'origine qui meurt et qui est remplacé par le projet des gens qui sont partis. GCC. GCC, en fait, ce n'est pas l'ancien GCC. Il y a eu un fork de GCC qui s'appelait EGCS. Et ils ont repris le nom GCC quand l'ancien GCC est mort. Il y a le KX86X.org, où il y avait un conflit entre les chefs. Et bon, ça se passe comme ça. Donc, le chef, il a besoin d'être compétent techniquement, parce que sinon on ne va pas lui faire confiance, et il a besoin d'avoir la bonne personnalité pour acquérir la confiance des développeurs. Et normalement, il y a aussi des sous-chefs qu'on appelle, donc leurs noms dépendent, mais typiquement, le nom qu'on utilise, c'est Branch Maintainer, ce qui veut dire responsable d'une branche du logiciel. Alors, je vous parlerai des branches dans un instant. Alors, pour vous donner un exemple, un projet auquel j'ai participé, le projet Darks, c'était un projet où on était une petite dizaine de développeurs, avec bien entendu toute la suite de Qibits après. Il y avait un chef et deux branch maintainers, un pour la branche stable, le logiciel qu'on donne aux utilisateurs, et un pour la branche instable, le logiciel sur lequel on travaillait entre nous. L'autre personnage important, c'est le release manager. Alors, pour résumer de façon un petit peu lapidaire, le chef, c'est celui qu'on aime. Le release manager, c'est celui qu'on déteste. C'est un rôle très ingrat, mais c'est un rôle qui est absolument essentiel. Le release manager, c'est celui qui définit le calendrier du projet. Alors, si vous faites un projet sans réfléchir à votre calendrier, la tendance naturelle des développeurs, c'est toujours d'ajouter des nouvelles fonctionnalités avant même que les anciennes fonctionnalités soient entièrement terminées. Alors, on arrive à un projet qui avance très vite, mais qui à aucun moment ne produit un logiciel qui fonctionne. Votre logiciel, donc il y a telle fonctionnalité qui fonctionne dans telle version, telle fonctionnalité qui a été rajoutée à la nouvelle, et puis il n'y a aucune version où toutes les fonctionnalités qui sont supposées fonctionner fonctionnent. Donc il y a besoin de définir un calendrier en disant on veut au 1er janvier sortir la nouvelle version, donc au 1er décembre, on ne rajoute plus de nouvelles fonctionnalités. À partir du 15 décembre, on ne rajoute plus de code, sauf pour réparer un problème grave, et comme ça, on a une chance, fin janvier, de sortir la nouvelle version. Et le responsable de ça, le gars qui prend personnellement sur lui la responsabilité de faire ça, c'est le release manager. Donc lui, il décide des gels, où on n'ajoute plus rien au code, et c'est lui qui est personnellement responsable. Personne n'a à lui dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Personne n'a à lui mettre la pression pour lui dire quand même cette fonctionnalité, on va la mettre. C'est lui qui est personnellement responsable de l'échec ou du succès d'une version qui va sortir, d'une release. Et en particulier, ça veut dire qu'il concentre sur lui tous les conflits des développeurs qui ont envie de rajouter tel truc, de modifier tel truc, de changer tel truc. Alors, dans les petits projets, il n'est pas forcément distinct du chef. Ça peut être le chef qui joue le rôle de release manager, mais ce n'est pas très bon. Parce que le chef, il faut qu'on l'aime, et le release manager, on ne peut pas s'empêcher de le détester. Donc, il y a un léger conflit entre les deux rôles. Donc, on essaye d'avoir un release manager qui est distinct. Alors, pour revenir au projet Darks, on n'était pas suffisamment nombreux pour avoir un gars qui faisait que release manager, mais de façon assez naturelle, le rôle de release manager, il était joué par le sous-chef qui était responsable de la branche stable, donc celle qui visait à produire du code utilisable par les utilisateurs. Donc ça, c'était les gens, et je les vois comme des outils de développement tout autant que les logiciels. Et il y a un certain nombre de logiciels et de morceaux d'infrastructures qui servent aussi à la communication dans le projet. Et d'après moi, le plus important, c'est la liste de diffusion. Alors, une liste de diffusion, désolé pour ceux d'entre vous pour qui c'est absolument évident, c'est un serveur auquel on peut envoyer un courrier qui va être dupliqué à travers tout un nombre d'adresses de courrier qui sont les abonnés de la liste. Donc, pour vous donner un exemple de liste d'un projet particulièrement prestigieux, la liste généraliste du projet Linux s'appelle kernel@vger.kernel.org. Sur cette liste, il y a quelques milliers d'abonnés, dont une quarantaine de développeurs, peut-être moins que ça, du projet Linux lui-même ou des autres projets qui tournent autour du noyau Linux. Et puis, des centaines et des centaines de gens qui sont souvent des informaticiens compétents, qui s'y connaissent en développement, mais qui ne participent pas vraiment. Alors, il y a un gars, supposons qu'il s'appelle Linus, il a envie d'engueuler tout le monde. Bon, ça ne va pas du tout. En ce moment, le noyau n'est pas du tout stable. On avait prévu d'avoir dans 2 semaines une release. Vu ce qui est en train de se passer en ce moment, ça ne va pas du tout. Alors, il pourrait bien entendu réfléchir qui c'est qu'il faut que j'engueule, mais la vie est trop courte pour trouver le coupable. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un mail, c'est mon petit 1 ici, à l'adresse kernel@vger.kernel.org. Et le logiciel de gestion de la liste de diffusion, ça porte un très joli nom en anglais, un petit peu vieillot, ça ne se dit plus tellement aujourd'hui, mais j'aime beaucoup, le terme de Mailing List Exploder, un exploseur de courrier. Il prend ce courrier, il le duplique 1732 fois et il l'envoie à tous les abonnés de la liste. Moi, je suis là-bas au fond à droite. Donc, il va y avoir tout le monde qui va recevoir une copie de ce courrier. Et ça, c'est vraiment l'outil essentiel. Alors, normalement, ces trucs-là, l'administration est automatisée. Alors, à une époque, c'était automatisé dans la version. On envoie un courrier avec la commande help à l'adresse qu'il faut. Donc, c'était majordomo@vger.kernel.org ou alors kernel admin@vger.kernel.org. Il vous donnait la liste de commandes et vous tapiez subscribe JCH à ce qu'il faut pour vous abonner, unsubscribe pour vous désabonner, etc. De nos jours, ça se passe pas mal à travers le web, ce qui est plus lent, mais au moins ça vous évite de réfléchir. Alors, la liste de diffusion, elle sert souvent à des discussions qui peuvent être extrêmement techniques. On peut être en train de dire, oui, mais ce que tu as fait à la ligne 732 du fichier toto.c, c'est n'importe quoi. Ou bien ça peut être, qu'est-ce qui se passe là? Il y a le président de tel pays, il déconne complètement. Ça arrive. Alors, ça dépend de la liste. Mais ce sont normalement des listes qui sont plus réfléchies que les discussions qu'on a sur IRC, à quoi je vais arriver dans un instant. Alors, des mailing lists dans un projet, même un petit projet, il y en a souvent 2, 3 ou davantage. Et il y a un nommage qui est plus ou moins standardisé. Il y a la liste des développeurs qui s'appelle nom du projet-devel. Donc ça, c'est la liste. Si vous n'êtes pas développeur, vous êtes le bienvenu. S'il y a une discussion de développement et vous vous y connaissez, n'hésitez pas à intervenir. Mais par contre, si vous envoyez un mail disant « j'arrive pas à mettre le texte en italique », comment on fait? Vous risquez de vous faire un peu mal voir. C'est des choses qui arrivent, et là, généralement, les développeurs vont être soit selon la liste, selon le temps de la liste, soit ignorer la demande, soit être absolument odieux, parce que ça ne se fait pas. C'est la liste d'Evel. Il y a à côté la liste users, et sur cette liste, c'est là que vous pouvez poser la question, comment est-ce que je fais pour mettre en italique? J'ai rien compris au doc, et d'ailleurs, c'est écrit en anglais. Cette liste-là, vous posez les questions, et typiquement dans tous les projets où j'ai été, il y avait régulièrement le chef qui engueulait les gens. Écoutez, c'est pas possible sur users, il n'y a que des utilisateurs. Donc les développeurs, ils considèrent souvent qu'ils ont autre chose à faire que de tenir la main aux utilisateurs. Maintenant, le contact avec les utilisateurs, c'est quelque chose d'essentiel pour un projet qui marche. Et donc, il y a sans arrêt, ce côté, bon, les mecs, vous vous réabonnez à users. Je sais qu'il y a plein de mails débiles, mais c'est notre rôle, c'est à nous. Si les utilisateurs, ils font du logiciel libre, c'est aussi pour pouvoir avoir un peu le contact avec les développeurs. Ensuite, comme sur users et sur devel, il y a parfois beaucoup de trafic, on essaye de faire une liste modérée où il n'y a que les annonces importantes, où il n'y a pas de discussion, où tout ce qu'on fait, c'est freeze à partir de lundi, où c'est la nouvelle version est sortie. Celle-là s'appelle announce. Et puis, il y a une liste qui s'appelle CVS ou commits, selon les projets. Et celle-là, elle contient les commits auxquels je vais arriver dans la 5e partie de cet exposé. Alors, quelque chose qu'il faut bien comprendre et qui est très, très important à comprendre si vous voulez participer à des projets de logiciels libres, c'est que le ton de la mailing list dépend énormément du projet. L'atmosphère dans un projet peut être extrêmement variable. Alors, j'aime bien raconter une anecdote à ce sujet. Il y a une ou deux années de ça, un collègue, donc un utilisateur de logiciels libres depuis de longues années, quelqu'un qui travaille très très dur à garder sa machine pure de tout logiciel propriétaire, il s'est retrouvé avec, entre les mains, une copie légale d'une doc de Matos que les gens n'arrivaient pas à obtenir pour le noyau Linux. Et donc, il s'est dit, je vais travailler dessus. Et il a écrit un driver. Donc c'était un informaticien, tout ce qu'il y a de plus compétent, il n'avait jamais fait de logiciel libre, il a écrit un driver, et très fier de lui, il en a fait l'annonce sur la liste kernel advger. Alors il faut savoir que la liste kernel advger, c'est une liste qui est extrêmement agressive. C'est une liste dans laquelle la réponse typique à un commentaire qui n'est pas très intelligent, c'est « je t'explique même pas pourquoi c'est débile ». Ça, c'est le ton gentil. Alors on arrive, et puis son driver avait un certain nombre de défauts. Ce qui est normal pour la première mouture d'un driver. Donc il y a quelqu'un qui l'a pris et qui a pris ligne par ligne son driver et qui l'a démoli. Alors si vous ne connaissez pas le ton de la mailing list kernel advger, vous ne savez pas que c'est un énorme compliment. Déjà on lui a répondu. Ensuite on n'a pas utilisé le mot débile. Ensuite on a lu son code et on l'a démoli. Je veux dire, ça c'est la gloire. Alors le gars en question est venu tout déprimé dans mon bureau pour pleurer sur mon épaule. Alors je lui ai dit, écoute, prenons les archives de la mailing list. Et je prends les archives, le dernier mois, il n'y a pas besoin de chercher longtemps, et je lui montre. Ici, on est en train d'expliquer à un mec qu'on ne comprend même pas qu'un gars comme ça soit capable d'utiliser le mail. Ici, on est en train de dire à un gars que avant de se permettre de faire ça, il faudrait qu'il apprenne le C, etc. Toi, ce qu'on t'a fait, on t'a vraiment traité de façon super sympa. Et puis sur la liste Darx, donc la personnalité du chef de Darx, c'est que c'est un gars qui est fondamentalement sympa. C'est un gars qui est sympa et le ton est vraiment sympa. Il a imposé un ton qui est gentil. Et puis il y a un mec qui débarque sur la liste de Darx et qui commence à dire un truc complètement débile entre nous. Et on lui répond, écoute, on va peut-être pas faire ça parce que ça a quand même tel problème et tel autre problème. Et le mec, habitué au ton de certaines autres listes, il croit que c'est vachement positif comme réponse. Et donc il insiste, je vais modifier ça. Non, ça on ne va pas le mettre, c'est une mauvaise idée. Oui, mais ça, il me suffit de modifier ça. Alors, quelque chose qui est essentiel, je l'ai mis en rouge. J'ai pas beaucoup de stylo rouge, donc quand je mets en rouge, c'est vraiment que c'est important que je trouve que c'est quelque chose sur quoi ça vaut la peine d'insister. Avant d'intervenir sur une mailing list, avant de vous vexer, ou avant de traiter les gens de tous les noms, vous lisez les archives. Et quand je dis lire les archives, ce n'est pas quelques messages, c'est quelques dizaines de messages. Vous prenez une heure, vous survolez le dernier mois de mails qui sont arrivés sur la liste. Et une fois que vous avez saisi le ton, que vous avez saisi l'atmosphère, là, vous pouvez y aller. Si vous ne le faites pas, vous risquez soit d'arriver avec vos gros sabots sur une liste sympa, soit d'arriver, gentil comme vous êtes, sur une mailing list, vous vexer et ne plus jamais revenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Avant de participer à un projet, essayez de voir comment est le ton. Le quatrième canal de communication, c'est IRC. Alors, IRC, c'est un logiciel de chat en groupe. Alors, vous avez tous l'habitude des logiciels de chat. Alors, sachez qu'avant que AOL arrive avec AIM, avec, je ne sais plus ce que ça veut dire, Messenger, un truc comme ça, eh bien, nous, on chattait déjà. On utilisait le téléphone, on utilisait le courrier électronique, mais on utilisait aussi IRC. Alors, IRC, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas un protocole qui est optimisé pour la conversation à deux. On peut y discuter à deux, mais ce n'est pas vraiment fait pour ça. C'est fait pour la discussion en groupe. Alors, la structure du réseau, ce n'est pas une structure client-serveur classique, c'est une structure hybride, pair à pair et client-serveur. Alors, il y a un certain nombre de serveurs IRC. Il n'y a pas qu'un serveur, il y a tout un tas de serveurs. Et ces serveurs sont interconnectés entre eux et ils sont en relation pair à pair. Et à chaque serveur sont connectés un certain nombre de clients. Donc, le client, c'est votre logiciel de chat à vous. Vous connectez un serveur, un qui n'est pas loin au sens du réseau. Donc si vous êtes dans la fonction publique française, vous essayez de trouver un serveur qui est dans une fac française, Et si vous êtes en Australie, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser un serveur qui est dans une fac française parce que ça coûte plus cher. Et puis, quand vous discutez, ce que vous êtes en train de dire, c'est inondé à travers tous les serveurs. Alors, cette architecture, elle a un très bon côté, c'est que c'est résilient en panne. S'il y a un serveur qui meurt, bon, les serveurs IRC, typiquement, ce sont des vieilles machines qui traînent au fond d'un placard quelque part dans une fac, donc c'est des machines qui tombent en panne. Alors, s'il y a un serveur qui meurt, ça n'affecte que les gens qui sont sur ce serveur, qui vont se reconnecter sur un autre serveur. Le défaut, c'est qu'il n'y a absolument aucune sécurité. Donc ça, ce n'est pas intrinsèque à cette architecture-là, mais dans le cas de IRC, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit que c'est moi, ce n'est pas forcément moi. Donc, faut dire, mais normalement, dans le cas au moins des groupes de logiciels, il n'y a pas trop de gens qui se font passer pour quelqu'un d'autre. Alors, les organisations sont, les discussions sont organisées en groupes de discussion, et un groupe de discussion sur IRC, ça s'appelle un canal. Et les canals ont des noms qui commencent avec un dièse. Alors, pour vous donner des exemples de canaux sur lesquels vous avez une chance de me trouver, sur le réseau Freenode, je traîne parfois sur dièse Lisp, où on parle de programmation Lisp, sur dièse Haskell, où on parle de programmation Haskell, ou sur dièse Darx, qui est le canal dédié aux discussions qui sont liées au projet Darx. Et là, on ne fait pas de distinction. Je veux dire, s'il y a une discussion de développement, on la fait dans dièse Darx. S'il y a une discussion avec un utilisateur qui est en train de galérer, on la fait sur dièse Darx aussi. Là, il n'y a pas de séparation comme avec les mailing lists. Donc, sur IRC, on a des conversations qui sont plus spontanées. Sur IRC, dire une connerie sur IRC, c'est normal. Dire une connerie sur la mailing list, c'est moins bien vu. On se dit, tu aurais quand même pu réfléchir avant de dire ça. C'est vraiment de la conversation en temps réel. Alors, pour vous donner un exemple tout bête, si j'ai un problème de programmation Lisp, si c'est un truc compliqué, je vais utiliser un truc qui ressemble à une mailing list, les news. Et il y a un canal de discussion sur les news qui s'appelle comp.lang.lisp sur lequel je peux poser ma question. Et si j'ai une question, probablement, elle fera une page si je l'écris là. Par contre, si j'ai un truc en train de me dire « c'est pas possible, j'y arrive pas », ça doit être un truc tout bête, quelqu'un doit voir tout de suite, ben, je vais aller sur IRC, sur dièse Lisp, et je vais dire « j'ai ce problème-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ?» Et très probablement, il y a quelqu'un qui va me dire « ouais, c'est évident ». Alors, non, je ne vais pas entrer là-dedans. Alors, juste un dernier point sur IRC, juste au cas où vous iriez sur IRC pour vous éviter de vous ridiculiser, sachez que les gens qu'il y a sur IRC, il y en a, c'est des êtres humains. Et il y en a, ce n'est pas des êtres humains, c'est des programmes, ça s'appelle des bots. Alors, si vous commencez à demander à un bot... Et au fait, toi, tu es où? T'habites où? Ah ouais, cool, t'es aux États-Unis. Vous risquez, les gens risquent de vous regarder avec un petit peu d'ironie. Donc, essayez de vous orienter dans les canaux pour savoir qui est un être humain et qui n'en est pas un. Alors, quelques exemples de bots. Normalement, il y a un bot qui traîne et qui fait de la prise de minutes, qui log tout ce qui se dit et ensuite qui le met en temps réel sur le web. Donc, si vous vous déconnectez d'IRC, parce qu'il y en a parmi nous qui ont aussi une vraie vie, en dehors du logiciel libre. Donc si, par exemple, vous ne pouvez pas suivre la discussion 24 heures sur 24, il y a quelqu'un qui dit « mais t'arrêtes de nous embêter, on en a déjà discuté hier entre 3 et 5 heures du matin, temps européen. » Alors là, vous faites « ah, je vais voir les minutes qui sont sur le web, c'est un gentil bot qui les prend pour vous, c'est pas un être humain qui note tout. » Il y a un bot que j'aime beaucoup qui s'appelle LambdaBot. Alors LambdaBot, donc, pour ceux d'entre vous qui font de l'informatique théorique, il s'appelle LambdaBot parce qu'il est écrit en Lisp, tout bêtement. Donc, c'est le lambda auquel vous pensez. Alors, LambdaBot, il fait plein de choses et il fait quelque chose qui est vachement bien. C'est que si vous lui donnez un manuel, donc la documentation d'un logiciel, il peut vous répondre à des questions dessus. Donc, il faut structurer le manuel de façon un peu particulière. Mais une fois que LambdaBot a été programmé pour connaître le manuel, par exemple, du langage Lisp, eh bien, vous pouvez lui poser des questions. Donc, il y a quelqu'un qui débarque, qui lui dit, il y a quelqu'un qui se rappelle comment on se sert de telle fonction. Et là, on répond, ben, demande à LambdaBot. Il demande à LambdaBot. LambdaBot répond tout de suite avec la bonne référence pour le manuel. Toujours LambdaBot, il permet de prendre des notes. Alors imaginez-vous, et de prendre les messages pour les gens. Donc imaginez-vous que vous êtes sur un canal IRC, vous n'avez pas l'intention de rester pendant les prochaines 48 heures, vous avez un truc urgent à dire à Linus. Linus n'y est pas. Alors vous dites LambdaBot, quand tu vois Linus, tu lui dis que. Et dès que Linus dit quelque chose, LambdaBot lui dira, au fait, il y avait un message pour toi. Et puis il y a PaceBot. PaceBot, il est sympa aussi. PaceBot, c'est celui à qui vous donnez un morceau de code à mettre sur le web. Et lui, ce qu'il dit sur le canal IRC, c'est qu'il y a machin qui a mis une page de code à telle URL et il a des questions à poser dessus. Donc ça évite de balancer sur le canal IRC des pages et des pages de texte. Alors tout ça, c'est très bien, mais tout ça, ce n'est que de la communication entre êtres humains. Alors en tant qu'être humain dans un projet de libre, ben, en fait, ce qui nous unit, c'est un intérêt commun. En tant qu'être humain, on ne s'aime pas forcément. En fait, ça se voit très bien quand on fait des réunions de vive voix. Donc, de temps en temps, on se dit dans un projet, écoutez, ça fait des années qu'on bosse ensemble, ce serait quand même pas mal qu'on se rencontre. Donc, rendez-vous à 20h30 GMT dans tel café à Bruxelles après FOSDEM, qui est une conférence de logiciels libres. Et tous ceux qui vont à FOSDEM se pointent dans ce café à ce moment-là. Et ces réunions, parfois ça se passe bien. Ça m'est arrivé de me lier d'amitié avec des gens que je ne connaissais qu'en ligne, mais en règle générale, on se déteste. En fait, on est des gens très différents qui n'ont rien en commun, sauf le fait qu'on est en train de travailler sur un projet commun et qui nous excite. Et donc, ce qui nous unit, ce autour de quoi nous sommes unis, ben, c'est le code source, c'est le logiciel. Et dans les outils de communication, il y a les outils les plus importants, qui sont les outils qui nous permettent de communiquer du code source. Alors, la version pédestre de la communication de code source, ce sont les outils diff et patch. Alors, imaginez-vous qu'il y a un logiciel. Donc c'est un logiciel vachement avancé, c'est le projet GNU Hello World. GNU Hello World, c'est un projet qui travaille depuis des années, il existe depuis des années, c'est un projet officiel GNU, vous pouvez vérifier. Ils ont en fait deux versions du logiciel, la version qui utilise AutoConf, la version qui n'utilise pas AutoConf de Hello World. Et le projet GNU Hello World, il produit un programme qui, quand on l'exécute, affiche Hello World à l'écran. Alors, il y a la version 1.1 de ce logiciel. Alors vous, un jour, vous décidez, tiens, j'aurais bien besoin d'un logiciel qui affiche Hello World à l'écran. Vous regardez si ça existe en libre. Et effectivement, vous trouvez que ça existe. Vous le téléchargez. Vous le lancez. Vous êtes très content parce que ça marche. Mais vous vous rendez compte qu'il manque un point d'exclamation à la fin de Hello World. Ce qui quand même est inacceptable. Donc, vous modifiez votre copie locale de Hello World et vous ajoutez le point d'exclamation là où il faut. Pendant ce temps-là, les développeurs de GNU Hello World, ils ont avancé. En fait, ils ont déjà sorti la 1.2. Et puis, après la 1.2, ils ont continué à avancer. Alors vous, vous pouvez leur envoyer votre version. Mais s'ils remplacent leur version par votre version, ils vont défaire tout ce qu'ils ont fait depuis. Il y aura bien votre bug fixe, mais en plus, tout ce qui a été fait depuis va être défait. En fait, ce que vous voulez leur dire, c'est à la ligne temps, il faut rajouter un point d'exclamation. Ce dont vous avez besoin, c'est le delta entre cette patate et cette patate-là. Et vous allez envoyer ce delta au développeur qui va choisir une version de, son arbre à lui, auquel il va appliquer votre modification. Alors l'outil qui produit le delta, qui produit la différence entre deux versions, il s'appelle diff. Le résultat d'un diff, ça s'appelle une rustine. Une modification, un truc qui bouche un trou, ça s'appelle une rustine, patch en anglais. Et il y a un outil qui s'appelle patch. Vous savez que l'anglais a cette propriété absolument fantastique que n'importe quel substantif peut être verbé. Donc to patch, ça veut dire appliquer une rustine. Et l'outil qui permet d'appliquer une rustine s'appelle donc patch. Donc ici, vous allez calculer ça à l'aide de diff, et ici, ça va être appliqué à l'aide de patch. Vous y voyez ? Donc, dans le répertoire hello, désolé pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas le C, mais dans le répertoire hello, j'ai téléchargé les sources de GNU Hello World. En fait, le vrai GNU Hello World, il est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, j'en ai fait une version à moi, mais les principes restent les mêmes. Et puis, vous voyez qu'il affiche ici Hello World, donc il affiche ce qu'il est entre guillemets, et qu'à la fin, après le D, il manque un point d'exclamation. Alors, ici, j'ai fait attention. Je me suis dit, je vais réparer cette erreur dans le Hello World. Et je l'ai copié dans un autre répertoire qui s'appelle hello.new. J'ai copié tous les fichiers et j'ai rajouté le point d'exclamation qui manquait à cet endroit-là. Et puis, j'ai utilisé cette ligne de commande absolument barbare, diff-urn, moins x, guillemets, étoile, tilde, étoile, etc. Calculer le diff entre les répertoires hello et hello.new. Et la seule option qui est importante ici, c'est le moins u. Si vous oubliez le moins u quand vous envoyez un patch, vous allez vous faire démolir. Et puis, le diff, il m'a produit ça. Et ce que vous voyez, c'est surtout le fait que la ligne printf hello world est précédée d'un moins et la ligne, la nouvelle ligne, est remplacée d'un plus. Donc ça, c'est quelque chose qui vous dit quels sont exactement les changements qui ont été apportés. C'est lisible par un être humain. Donc si le développeur reçoit un patch, il peut le lire. Et en plus, c'est lisible par un programme, le programme patch. Et c'est ça, typiquement, qu'on envoie quand on ne participe pas à un projet, mais on veut apporter une modification. Donc, pour répéter ce que j'ai dit, un patch, ça peut s'appliquer à la main, en le lisant et en utilisant un éditeur, ou bien à l'aide du programme patch. Je vous passe les détails sur l'utilisation du programme patch, mais je vais juste vous dire que patch est un programme relativement intelligent. C'est un programme qui est capable, lorsqu'il y en a besoin, de s'adapter à des sources qui ne sont pas exactement ceux qu'avait la personne qui a lancé diff. De temps en temps, patch vous dit, écoute, tes sources, ils ont trop changé depuis, j'y arrive pas. Et là, il génère des rejets. Et les rejets, ben, il faut les gérer à la main. Alors, patch, diff et patch, c'est une façon de fonctionner qui marche très bien lorsque vous avez juste quelques petites modifications à faire. C'est un petit peu pédestre. C'est à vous, manuellement, de gérer le fait que le logiciel d'origine, c'est celui qui est dans le répertoire hello, que le logiciel modifié, c'est celui qui est dans le répertoire hello.new. Lorsque vous commencez à vous investir un petit peu plus sérieusement dans un projet, vous risquez d'avoir un problème. Vous risquez de vous retrouver avec 10 000 répertoires, un qui s'appelle hello, un qui s'appelle hello.old, un qui s'appelle hello.new, un qui s'appelle hello.2, un qui s'appelle hello qui marche, un qui s'appelle hello qui marche pas, et vous êtes là en train de vous demander, c'est lequel déjà dans lequel j'ai fait ceci, c'est lequel dans lequel j'ai apporté la modification que je voulais envoyer, c'est lequel qui contient les sources d'origine. Et donc, quand vous vous investissez plus sérieusement dans un projet, vous avez besoin d'outils de gestion du code source qui sont un petit peu plus riches. Mais avant de vous parler de ces outils-là, je voudrais faire une petite parenthèse et vous parler du cycle de vie d'un logiciel. Alors, un logiciel, il avance. Il avance, il y a plein de changements qui sont apportés au logiciel, il est vu, il évolue continuellement, et régulièrement, on a des versions qui marchent. Alors, elles marchent plus ou moins bien, mais on essaye autant que possible d'avoir des versions qui compilent. Alors ça, ce n'est pas quelque chose. On croit souvent que le fait d'avoir continuellement un logiciel qui marche, c'est spécifique au logiciel libre. Ce n'est pas du tout vrai. Dans l'industrie, les gens essayent un petit peu d'avoir la même chose, c'est-à-dire d'avoir un arbre, un logiciel qui marche, et ils évitent autant que possible de tout casser. Donc typiquement, si vous cassez tout, si vous êtes ingénieur en informatique, dans la plupart, donc ça dépend bien entendu des méthodologies de gestion d'un projet, mais généralement, Si vous cassez tout, le chef de projet risque de vous en vouloir. En logiciel libre, c'est pareil. On essaye autant que possible d'avoir des programmes qui marchent à tout moment. Alors, il y a une version qui est la version de tête. Donc à tout moment, il y a la version la plus neuve, la version où on a apporté le plus de modifications. Et la suite des versions de tête, ça s'appelle le tronc du logiciel. Mais maintenant, de temps en temps, on n'a pas envie de travailler sur le tronc. Imaginez-vous, vous arrivez dans le projet Emacs et vous dites, écoutez, Emacs, c'est absolument tragique, il ne permet pas d'écrire en polonais. Alors je vous rassure tout de suite, pour ceux que ça inquiéterait, Emacs permet très bien de nos jours d'écrire en polonais, mais supposez que vous arrivez sur une version de Emacs, vous voulez rajouter le polonais, et vous dites, écoutez, le polonais quand même c'est compliqué, il y a plein de Z de partout, donc on voudrait, donc il va falloir que j'apporte des modifications un petit peu profondes à Emacs, je risque de casser les choses. Alors là, Stallman, il va vous dire, tu veux casser Emacs ? Alors vous dites, ben écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de modifier le tronc, je vais faire ma copie du tronc et je vais faire ce qui s'appelle une branche. Je vais partir de côté pour faire mes modifications à moi. Et puis vous commencez à bidouiller ce truc-là. Et puis comme vous êtes bénévole, au bout d'un moment, vous en avez marre, c'est vraiment trop compliqué le polonais, on laisse tomber. Ou bien alors, vous vous rendez compte, non, c'est débile ce que je voulais faire. Stallman, il avait raison de ne pas me permettre de modifier le tronc, parce que mes idées sont mauvaises. Et votre branche, elle meurt. Vous dites, ok, on oublie. On oublie. Et ça, c'est une branche morte. Et puis, de temps en temps, il y a une branche sur laquelle quelqu'un va travailler pour ne pas casser le tronc. Et au bout de quelques itérations de la branche, on se rend compte que, en fait, c'était une très bonne idée. Ça marche très, très bien, ce que j'ai fait. Alors, à ce moment-là, j'ai envie de remplacer le tronc par ma branche. Mais entre-temps, le tronc a avancé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'arriver à une version qui contient les modifications apportées à la branche, les modifications apportées au tronc. Alors, si elles sont à des endroits différents, ben, ça se passe assez bien. Si c'est le même code qui a été modifié, ça va demander un petit peu plus de réflexion. Alors, le fait de créer une nouvelle branche, ben, ça s'appelle un branchement, a branch. Et puis, le fait de remettre une branche dans le tronc, ça s'appelle un merge. Alors, vous vous rappelez, il y a une chose que je n'ai pas commentée tout à l'heure sur mon transparent sur IRC. J'ai dit IRC, ça sert aussi à faire des merges complexes. Alors, si vous avez un merge complexe à faire, il y a plein de choses à négocier avec les autres développeurs. Vous ne pouvez pas le faire par courrier électronique, parce qu'un courrier électronique, ça prend trop de temps. Vous avez plein de commentaires, plein de choses à discuter. Là, ça se fait typiquement en IRC. Donc, si vous arrivez sur un canal IRC et vous voyez plein de gens qui sont en train de discuter de façon très excitée de choses extrêmement techniques, c'est probablement qu'il y a un merge en cours. Et puis, il y a quelque chose qu'on essaye de faire autant que possible, et ça demande une énorme discipline, c'est la branche stable. Alors, à un certain moment, on sort la version « Notre tronc est stable ». Le tronc, il marche. Il n'y a pas de bug connu dans le tronc. C'est parfait. On est dans la situation que l'industrie aime bien appeler la situation zéro défaut. Et à ce moment-là, donc zéro défaut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut, ça veut dire qu'on n'en connaît pas. On se dit, OK, cette version, nickel, on peut la donner à des utilisateurs. OK, dimanche soir, le release manager dit, dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3h du mat, je sortirai la version 3.1 du logiciel. Vous sortez la version 3.1. Alors là, le release manager, ça fait un mois qu'il emmerde les gens, qu'il les empêche d'ajouter les choses. Et vous imaginez que quand il sort ça à 3h25 du matin, à 3h26, on a déjà avancé. Et il le sort, et il y a une loi en informatique qui s'appelle la loi de Murphy, qui dit que si on le sort à 3h25, le premier défaut, on le trouve à 3h30. Donc à 3h30, il y a des gens qui disent « Ok, il y a un problème. » Alors on pourrait se dire « On va modifier le tronc. » Le problème, c'est que le tronc, il a avancé. Et il est complètement cassé à ce moment-là parce que tout le monde est super excité. On peut de nouveau ajouter des nouvelles fonctionnalités. Alors ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on fait une branche à laquelle branche on n'ajoute pas de nouvelles fonctionnalités. Tout ce qu'on fait sur la branche, c'est séparer, c'est réparer les défauts. Et ça, ça s'appelle une branche stable. Alors ici, je vous montre le cas dans lequel la branche stable, elle existe après la sortie de la version 3.1. Dans les gros projets, ce qu'on fait, c'est qu'on se sépare en tronc et en branche avant la sortie du projet. Et donc, on a la branche stable sur laquelle il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. Le tronc, il avance. Et un beau jour, le chef de projet dit, ben, écoutez, c'est vachement bien, il y a plein de nouvelles fonctionnalités. On a en particulier mergé le support du polonais. Et ça, ça mérite la sortie d'une version 3.2. Et au moment où la version 3.2 sort, on crée une branche stable 3.2 et normalement, on ferme la branche stable 3.1. Donc, selon la main d'œuvre que vous allez avoir, soit vous allez encore continuer une branche stable 3.1 si vous êtes un projet qui maintient les anciennes versions, ou alors, si vous êtes un petit projet, vous allez dire aux utilisateurs, écoutez, maintenant, il y a une 3.2 stable, la 3.1, fini. Même si vous trouvez des bugs, il n'y aura plus de nouvelles versions, de nouvelles release de la 3.1. Voilà. Donc la terminologie, c'est branche, branche morte, branche stable, et surtout merge. Et puis qu'est-ce que c'est qu'un fork? Je vais vous parler tout à l'heure de Emacs Xemax. Ben, un fork, c'est une branche qui est faite, mais pas dans le but de faire un merge. C'est une branche qui va rester parallèle indéfiniment. Donc après cette petite parenthèse, je voudrais vous parler du système de contrôle de révision. Alors sur mon diagramme précédent, il y avait plein de patates, il y avait des traits des patates, et les patates, ça s'appelle des révisions du logiciel. Ça ne correspond pas forcément à des versions visibles par l'utilisateur. Les révisions, c'est quelque chose qui est visible uniquement par le développeur. Et pour gérer tout ça, on utilise un système de contrôle de version ou de contrôle de révision. Alors, il y a plein de questions que vous avez à poser à propos du code. La question la plus courante, pour ceux qui ont une vie, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec l'arbre pendant que j'étais en vacances? Je suis parti en vacances le 23 décembre. Le 26 décembre, au matin, je suis rentré. Pendant ce temps-là, le code a énormément évolué. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je peux demander aux gens qu'est-ce qui s'est passé, et ces gens, probablement, ils ont autre chose à faire. Ils sont en train d'avancer. Alors, c'est idiot qu'on soit obligé de regarder à la main. Il faudrait qu'il y ait un logiciel capable de vous dire qu'est-ce qui s'est passé sur le logiciel. Alors maintenant, quelque chose qui est peut-être moins évident, c'est j'ai un bug qui est apparu. Alors, le mois dernier, le serveur X fonctionnait très bien sur le matos de machin. Machin a utilisé la vieille version. Il a voulu prendre la version de début février. Et dans la version de début février, ça ne marche plus. Donc, quelque part, pendant les 1352 changements qu'on a apportés en janvier, il y a un bug qui est apparu. Alors, soit il y a quelqu'un qui a une idée, mais très souvent, on n'a pas la moindre idée de qu'est-ce qui a pu casser les choses. On ne s'en souvient plus. Et là, on a besoin de faire une bisection. C'est-à-dire, on va prendre la version du 15 janvier, on va voir que le bug y est, on va prendre la version du 7 janvier, on va voir que le bug n'y est pas, on va prendre la version du 11 janvier, et on va continuer jusqu'au moment où on identifie le changement qui a cassé les choses. Et pour ça, on a besoin d'avoir tout l'historique. Ensuite, on a besoin d'avoir des branches stables, des branches normales, et tout ça, c'est très facile de se mélanger les pinceaux dedans. Donc on a besoin d'un logiciel qui conserve plusieurs versions et qui, plus est, nous permet de ne pas nous y perdre. Ça, c'est le système de contrôle de révision. Alors, les systèmes de contrôle de révision, donc mon abréviation en dessous, au-dessus, c'est Revision Control System, c'est le terme générique pour un système de contrôle de révision. Il y en a eu tout un tas de générations. Alors, je vais passer très vite dessus, je vais vous parler que des deux dernières générations. Les systèmes de contrôle de révision concurrents centralisés et les systèmes décentralisés. Alors, les systèmes centralisés, il y en a deux qui sont très connus et très utilisés. C'est CVS, qui date de la fin des années 80, et Subversion, qui est CVS refait en moins bien sur la fin des années 90. Alors, un système centralisé, par exemple le CVS, vous pouvez le voir comme un disque réseau. C'est un disque réseau qui contient, qui au lieu de contenir juste la version actuelle du code, il contient tout l'historique du code depuis qu'on a commencé à le maintenir dans CVS. Alors, Alice, Bob et Chloé, sur leur station de travail connectée à l'Internet, sont en train de travailler sur les sources qui sont contenues dans CVS. Alors, Bob arrive et il se dit, tiens, je voudrais les sources. Il n'a aucune version des sources. Alors, il fait ce qui s'appelle un checkout. C'est le 1 ici. Donc, le checkout, Bob demande, envoie-moi toutes les sources actuelles du projet. Il reçoit ça à travers le réseau. Ce qu'il voit, lui, c'est comme s'il avait téléchargé les sources, sauf que c'est la toute dernière mouture. Mais CVS a retenu quelque chose. Il a retenu le fait que la version qu'il a, c'est la version du 17 janvier. Alors Bob commence à travailler. Il travaille. Il apporte des modifications. Et il se dit, c'est pas mal ce que j'ai fait. Allez, je le mets dans le CVS. Je le mets dans le CVS, comme ça les autres, ils peuvent y accéder. Et en plus, comme ça, il y a une sauvegarde. Si ma machine plante, si je perds le disque, c'est dans le CVS. Je n'ai pas besoin de faire mes sauvegardes à moi. Et là, il fait ce qui s'appelle un commit. Donc, il envoie ses modifications au CVS. Le CVS lui répond, écoute, c'est cool, ok, j'ai tout stocké. Et puis là, Chloé se dit, voyons voir s'il y a eu des changements. Elle avait déjà fait un checkout, elle veut connaître les derniers changements, elle fait ce qui s'appelle un update. CVS calcule les différences entre la dernière version qu'elle avait, qui était celle du 15 janvier, la version actuelle, et puis lui transmet les changements qui ont eu lieu, et le client de Chloé met à jour ses sources. Donc, le RCS, très rapidement, vraiment sans entrer dans les détails, il a trois rôles. D'abord, il stocke tout l'historique des sources. Si vous lui demandez, est-ce que tu peux me donner la version de telle date, il peut vous la donner. Donc vous faites un checkout, mais un checkout antédaté d'une version antérieure. Donc pour savoir qu'est-ce qui a été cassé, vous avez besoin de faire des checkouts de version antérieure. Il permet les branches multiples. Normalement, quand vous faites un checkout, il vous fait le checkout du tronc. Mais avec un système de contrôle de révision, vous pouvez dire, il y a la branche qui s'appelle imax-unicode-2. Ce que je veux, ce n'est pas les sources du tronc de imax, c'est les sources de imax-unicode-2. Et ça, le CVS vous le permet. Et finalement, il empêche les conflits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Il y a un fichier dans le CVS qui s'appelle toto.c. Et toto.c, il en est à la version 1.1. Et Alice et Bob décident tous les deux simultanément de travailler sur toto.c. Alice fait un checkout en bleu, Bob fait un checkout. Dans un ordre arbitraire, ça n'a pas d'importance, ils obtiennent la version 1.1. Et puis Alice, de son côté, fait des modifications à toto.c. Donc Alice change tout, elle décide que le fond de l'écran, il faut qu'il soit violet. Alors, Bob, il n'est pas du tout d'accord, il n'est pas du tout fan du violet. Il décide que le fond de l'écran, il va être orange. Alice fait un commit. OK, pas de problème. Le CVS lui répond, OK, ton commit a réussi. C'est bon, la dernière version des sources, c'est la version qui contient le violet. Et là, Bob fait un commit. Alors, si son commit devait réussir, il aurait, sans le savoir, annulé les changements apportés par Alice. Alors, le problème, ce n'est pas que Bob ait le droit ou non de modifier les changements apportés à Alice. Ça, c'est un problème de communication personnelle et Bob et Alice le discuteront tranquillement entre eux sur la mailing list. Mais ce qui serait grave, c'est que Bob apporte cette modification et annule les changements faits par Alice sans qu'il le sache et qu'un mois plus tard, on se rende compte, mais ils sont où les changements qu'a fait Alice. Donc, à ce moment-là, CVS répond, désolé, il y a conflit. Le commit échoue et Bob doit se débrouiller pour faire un update de toto.c à la version 1.2 et avoir la dernière version. Et ensuite, ça va dépendre, les détails techniques de ça vont dépendre du logiciel de contrôle de révision particulier. Alors, Les systèmes centralisés. Nous ont servi pendant des années et des années. Je veux dire, ce sont des systèmes dont les premiers ont commencé à apparaître vers 84. CVS, c'est un système qui est de tout, je dirais, du début des années 90. Pendant 20 ans, on les a utilisés. Mais il y a un gros problème de ces systèmes-là, qui n'est pas un problème en milieu industriel, mais qui est un problème pour nous quand on fait du logiciel libre. Le problème, c'est que CVS, fondamentalement, divise les utilisateurs, divise les développeurs, pardon, en deux catégories. Les utilisateurs de CVS, donc les développeurs, en deux catégories. Les gens qui ont le droit de faire un commit, donc de modifier les sources qui sont dans le CVS, et les externes, les gens qui ont juste envie de bidouiller un truc. Et eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est un checkout ou un update. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est accéder au CVS en lecture, prendre les sources, mais pas les modifier. Alors, pour les gens qui ont le droit de commit dans un CVS, donc normalement les développeurs du projet, CVS est extrêmement confortable. On peut avoir plusieurs versions, on peut essayer une version, revenir en arrière, etc. Par contre, pour les gens qui n'ont pas le droit de commit, CVS est complètement dégénéré. Il ne sert plus qu'à une chose, il ne sert plus qu'à avoir la dernière version des sources. Ce serait pratique si le confort du système de contrôle de révision, il pouvait être donné aussi aux gens qui n'ont pas le droit administratif d'écrire dans le CVS. Alors, il y a une idée qui tourne depuis assez longtemps, c'est pourquoi est-ce que l'extérieur, il ne pourrait pas faire une branche, donc c'est normal qu'un gars qu'on ne connaît pas ne puisse pas modifier le tronc, mais est-ce qu'il ne pourrait pas faire sa branche à lui ? Alors oui, mais du coup, il est en train de nous bouffer de la place sur le disque de notre CVS à nous, avec sa branche à lui. On ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas trop envie de lui donner les droits d'écriture. Mais est-ce que cette branche, elle ne pourrait pas être sur son disque à lui ? Donc sur son portable à lui, ou sur sa machine à lui ? Alors cette idée, elle a donné les systèmes de contrôle de révision distribués, ou une branche locale, n'importe qui peut la faire sans nous dire, parce que tout ce qu'il fait, c'est brancher, donc lire dans le système de contrôle de révision de tout le monde. Et puis c'est juste au moment où il aura besoin de faire un merge, de remettre ses changements, qu'il aura besoin d'embêter quelqu'un qui a les droits de commit. Donc par rapport à mon dessin précédent, avec un système de contrôle de révision distribué, on a plusieurs dépôts, donc plusieurs suites de versions. On a ces versions qui avancent localement sur le disque de chacun des développeurs. Et puis les développeurs s'échangent entre eux des modifications. Donc les deltas sont échangés, mais il n'y a plus cette structure où on envoie au serveur central et on retourne les données. Ça se passe de façon complètement chaotique et dans n'importe quel sens. Il n'y a donc plus de distinction entre un update et un commit. Les deux sont simplement des transferts d'informations entre pairs. Alors la réaction, c'est bien entendu, mais ça va être complètement ingérable, ces trucs-là. Eh bien, en fait, non, parce que le cas centralisé, c'est un cas particulier du cas distribué. Il suffit de définir que ça, c'est le dépôt béni, blessed. Donc on dit, par exemple, puisque Alice est le chef du projet, le dépôt d'Alice, c'est celui qui contient les vraies sources. Vous faites ce que vous voulez chez vous, mais quand vous voulez faire un commit, vous envoyez à Alice, et quand vous voulez savoir où on en est du point de vue du projet et pas de votre point de vue à vous, ben vous lisez chez Alice. Et donc, on a remplacé cette structure centralisée, qui était une structure imposée techniquement, par une structure qui est de nouveau centralisée, mais cette fois-ci, elle est définie administrativement. Cette fois-ci, ce n'est pas une limitation technique qui nous force à être centralisé, c'est le fait d'arriver à nous y retrouver qui fait qu'on est centralisé. Et donc, je ne vais pas vous parler de beaucoup de... Les deux systèmes de contrôle de révision distribués qui sont utilisés en ce moment, c'est Git. Donc, Git, c'est celui, c'est sans aucun doute le plus utilisé, en particulier Linux, le noyau Linux utilise Git. Et l'autre que je vais mentionner, c'est Darx. D'abord parce qu'il est vachement bien fait. Ensuite, parce que c'est partiellement moi qui l'ai fait. Alors, ce matin, J'ai pris mon stylo, celui-ci, non l'autre, je ne sais plus où il est, celui-là. J'ai écrit conclusion. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je détestais faire les conclusions. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire de conclusion, mais j'avais déjà écrit conclusion, donc le titre est resté. C'est un appel à l'action, ça. Alors si vous savez programmer, ou si vous ne savez pas programmer, mais vous savez choisir la couleur du fond, et vous pensez que le violet c'est mieux que l'orange, ou que l'orange c'est mieux que le violet, n'hésitez pas. Notre milieu est un milieu ouvert. Il est ouvert même si ça ne se voit pas. On a l'impression qu'il est opaque parce que très souvent on ne sait pas où chercher. Vous aimez le projet Toto ? Vous voulez changer la couleur du fond de l'écran ? Trouvez où sont les sources. Il a sans aucun doute, ce projet, un dépôt CVS, un dépôt Subversion, où il a quelque part un dépôt béni sous Git ou sous Darks. Lancez la commande qu'il faut. Ici, j'ai fait un CVS checkout, et comme je ne connais pas l'URL du projet Toto, ça se trouve dans votre logiciel, dans votre truc de recherche sur le web favori. Comme vous lancez cette commande, vous obtenez la copie des dernières sources. Lisez-les. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, vous cherchez juste l'endroit dans lequel on met la couleur du fond. Ensuite, avant de vous lancer, lisez un mois d'archives de Toto Users. Vous aurez plein de questions d'utilisateurs qui ne comprennent rien. Lisez les archives de Toto Devel. Vous allez voir plein de discussions entre développeurs qui s'insultent. Et puis là, allez-y, lancez-vous. Je vous remercie pour votre attention.
Voilà, merci Julius pour cette présentation très très détaillée sur l'environnement de travail des développeurs de logiciels libres. Donc je pense que ça appelle aussi pas mal de questions. Donc c'est à vous maintenant de poser vos questions.
Bonjour, donc j'aurais juste voulu savoir, étant donné que bon, je ne connais pas trop, pourquoi est-ce que vous dites que Subversion, c'est CVS en moins bien ? Mais c'est vraiment que je ne connais pas.
Alors, CVS s'est construit au-dessus de RCS, qui est la génération précédente de logiciels de contrôle de révision. Alors, RCS, il avait un certain nombre de problèmes. La première, c'est que dans RCS, il y a des locks. Si Alice est en train de travailler sur Toto.c, Bob ne peut pas faire un checkout de Toto.c. Si Alice a fait un checkout, tant qu'elle n'a pas fait le commit qui correspond, Bob ne peut pas le faire. Donc vraiment, on travaille, on sérialise complètement le fonctionnement. Dans CVS, on a la notion de conflit. Alors, dans RCS, la communication entre développeurs, elle est un petit peu compliquée, parce que chacun a le dépôt dans son home et on ne peut pas communiquer. Donc soit moi, je vais piocher dans votre home, soit vous, vous allez piocher dans le mien. CVS résout ça, il met tout dans un endroit centralisé. Et puis, il y a un protocole client-serveur, parce que RCS, c'était juste sur une machine, ce qui allait très très bien quand on avait 500 personnes sur un seul ordinateur. De nos jours, chacun a son ordinateur, et on est tous connectés à travers le réseau. Par contre, fondamentalement, CVS, ça reste RCS. Le commit est non atomique. Quand vous faites un commit sur 10 fichiers, s'il y a un conflit au milieu, vous avez fait un commit sur 5 fichiers, et 5 fichiers, vous ne l'avez pas fait. Vous avez une incohérence par rapport à ce que vous aviez dans la tête. Vous n'avez pas de gestion du renommage. Vous pouvez bien entendu supprimer un fichier et en créer un sous un nom différent, mais là, vous perdez l'historique. Et puis, le merge est extrêmement bête. Si vous avez une branche, c'est un tableau, ça ? Ouais. Donc, si vous avez un tronc, une branche, vous faites un merge. Vous continuez le tronc, vous continuez la branche. CVS essaye de faire un merge de tout, d'appliquer ces changements de nouveau. Il ne retient pas que vous aviez déjà fait un merge ici. Le problème du merge intelligent, c'est un problème qu'on connaît depuis une dizaine d'années. C'est un problème dont on a beaucoup souffert. Le but de Subversion, c'est de résoudre les problèmes de CVS. Le seul qui est difficile là-dedans, les autres, c'est des petits défauts techniques qui sont extrêmement embêtants en pratique, mais qui, d'un point de vue fondamental, sont triviaux. Ces deux-là, ils les ont résolus, et heureusement, parce que quand même, ça aurait été gonflé de dire on améliore CVS et de ne pas les résoudre. Et celui-là, qui est le seul problème où il y a besoin de réfléchir un petit peu, ils ne l'ont pas résolu. Et ils ont apporté un certain nombre. Donc CVS avait ses limitations, mais on savait les gérer. Les problèmes de CVS, on les connaît. CVS, on connaît depuis 20 ans. Si vous avez un problème avec CVS, vous trouvez des dizaines de personnes capables de vous le résoudre. Subversion a réparé certains problèmes de CVS, mais il en a introduit d'autres. Et ceux-là, c'est des nouveaux problèmes. Donc un problème qui est nouveau, c'est bien pire qu'un problème qui est vieux. En particulier, le fait que SVN stocke. Alors, ça, ils l'ont réparé partiellement dans les toutes dernières versions, mais avec N années de retard. CVS stocke votre dépôt comme un ensemble de fichiers texte. Le jour où CVS déconne, eh bien vous prenez votre éditeur de texte favori, vous allez piocher dans CVS ou vous appelez quelqu'un qui connaît CVS depuis 20 ans et vous réparez. Subversion stocke ça sous un blob, comme un blob binaire. Ce blob binaire, s'il est cassé, vous avez tout perdu. Vous ne pouvez plus rien en faire. Subversion n'est pas capable de le lire, vous n'avez aucune façon de l'analyser, sauf à prendre un éditeur hexadécimal et essayer de travailler dessus. Donc, Subversion essaye de résoudre des choses. C'est quelque chose par rapport à CVS qui résout les problèmes faciles de CVS, qui introduit des nouveaux problèmes qui sont des problèmes fondamentaux. C'est un outil beaucoup, beaucoup plus complexe et beaucoup plus opaque que CVS. Et d'autre part, il arrive 20 ans trop tard. Et puis, j'aime pas les gars qui le font. Mais ça, c'est en train
de parler un petit peu de ces systèmes de versionnement décentralisé. Et en l'occurrence, bon, il se trouve qu'on entend pas mal de choses hein, sur Git, sur Dark. Parce que, bon, actuellement, le fait que Git soit aussi très utilisé, c'est aussi un petit peu le fait de l'affluence de la développement de Linus Torvalds, des développements de noyaux, etc. On entend bon, également dire que bon, Dark, c'est basé sur des concepts très différents qui le rendent peut-être beaucoup plus facilement utilisable pour les utilisateurs. Vous, de votre point de vue de développeur, finalement, qu'est-ce qui a motivé le développement de Dark ? C'est pour vous, sur quel type de projet est-ce que vous conseillez d'utiliser plutôt Dark ou plutôt Git ? Quelle est votre opinion là-dessus ?
Alors, d'abord, ce qui a motivé le développement de Dark, c'est qu'à l'époque où Dark a été fait, Git n'existait pas. Pour moi, ce n'est pas entièrement clair que Dark aurait été créé si Git existait. Alors, la différence fondamentale entre Dark et Git, outre les personnalités, les groupes de développement, etc., c'est que Git, c'est quelque chose qui marche très bien, qui est extrêmement solide, qui marche très vite. Dark, c'est quelque chose qui est utilisable par un être humain normal. Donc, mon conseil aux gens qui me posent cette question, c'est si tu n'as jamais utilisé un système de contrôle de révision distribué, si tu commences à utiliser Git, tu vas revenir à CVS. Donc commence avec Dark. Et une fois que vous connaissez Dark, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'essayer de comprendre ce que fait Git. Donc c'est possible de comprendre ce qu'il fait Git, moi ça m'a pris 2 mois. Ça répond à votre question ? Maintenant, je voudrais bien insister là-dessus. Je pense que Git, j'ai lu les sources de Git, je l'ai étudié en détail. Je pense que Git, c'est absolument brillant et parfaitement inutilisable.
Ça va être d'essayer de l'adapter pour le rendre aussi performant que Git, ou est-ce que c'est de garder vraiment cette solution alternative finalement utilisable par un être humain ?
Alors, c'est pas très clair pour moi en ce moment dans quelle direction Dark devrait aller. Donc, il y a une voie qui consisterait à dire il faut continuer à garder Dark tel qu'il est, l'améliorer de façon itérative. C'est fondamentalement un truc qui ne marche pas aussi bien qu'on le voudrait, mais il a cette interface utilisateur qui est extrêmement agréable à utiliser et extrêmement claire. Et ce qui est sous le capot, en règle générale, ça marche. Il y a des problèmes de performance sur les très grands arbres, mais c'est pas c'est pas quelque chose qui le disqualifie. Il y a l'autre opinion qui dit que ce qu'il faut faire, c'est prendre Git et construire autour de Git quelque chose qui serait aussi agréable à utiliser que Darx. Le problème de cette deuxième approche, c'est que ce n'est pas clair que c'est possible. Nous ne comprenons pas tout à fait dans quelle mesure est-ce que Darx est aussi agréable à utiliser parce que l'interface utilisateur est bien faite. Il ne faut pas négliger l'interface utilisateur, c'est là où va une bonne partie de notre travail. Ou on peut considérer qu'en fait, il y a des choses fondamentales aux structures de données employées à Darx qui font qu'il est possible de construire une interface utilisateur agréable dessus. Et pour moi, ce n'est vraiment pas clair laquelle est la bonne réponse. Donc en ce moment, nous sommes en train d'en débattre. Je ne peux pas vous en dire davantage. Et ça se passe sur Darx Devel.
Oui, alors vous avez assez bien détaillé, je pense, comment est-ce qu'on fait pour devenir Kivitzer sur un projet. Mais en fait, comment est-ce qu'on devient vraiment développeur dessus? C'est à la création, c'est sur les mailing lists en se faisant remarquer?
En règle générale, je crois que la plupart de nos histoires... Donc là, c'est une question... Je ne veux pas non plus... Donc ça, je crois que l'histoire personnelle de chaque développeur est différente. Alors, pour la plupart des gens, ça a commencé quand on était utilisateur. On était utilisateur d'un logiciel. Et puis un beau jour, ce logiciel ne faisait pas quelque chose ou le faisait mal. Donc on a regardé les sources, et puis finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. On a envoyé un patch. Et puis on nous a répondu, ce patch, on ne peut pas l'accepter tel quel parce qu'il manque ceci. Donc on a commencé à améliorer le patch. Au bout d'un moment, on s'est perdu. Donc on s'est dit, je vais y aller proprement avec le système de contrôle de révision. Et au bout de 3 mois, où vous étiez en train de vous investir toujours davantage, on vous a dit, tu arrêtes de te la jouer extérieure. Tu prends les droits de commit et tu travailles normalement comme nous tous. Donc, je crois que la plupart du temps, ce n'est pas un truc planifié, c'est un truc où on s'est lancé dedans. Et puis, un beau jour, de fait, on était développeur et donc on nous a invités à devenir développeur formellement. Mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça, c'est général, dans quelle mesure c'est vrai pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est votre question ou...
C'était à peu près ça, oui. Mais par exemple, enfin, un projet comme Darx commence à partir de 2-3 personnes qui veulent créer...
Darx a commencé parce que David Rundy avait regardé Arch et il a décidé que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc il a essayé d'expliquer à l'auteur de Arch, qui était un des premiers systèmes de contrôle de révision distribué libre, que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Le gars n'a pas voulu faire comme il voulait, donc il lui a dit « je vais m'entrer ». Et il a commencé à programmer ça. Moi, je suis arrivé en Darx tout simplement parce que j'étais en train de chercher un remplacement pour CVS. J'avais été convaincu qu'il fallait un système de contrôle de révision distribué. J'ai commencé à utiliser Darx et je me suis rendu compte que Darx avait un problème très grave pour moi. Il ne fonctionnait pas sur un disque réseau. Or, nous, à la fac, on n'a que des disques réseau. Il y avait des problèmes de lock sur les disques réseau. Et donc, j'ai commencé à le modifier pour qu'il fonctionne sur les disques réseau. Et une fois qu'on tombe dedans, on n'en sort plus.
Merci.
Encore une question ?
Moi, je voudrais bien que vous expliquiez un peu plus en détail qu'est-ce que ça apporte, le système distribué par rapport au système centralisé. Parce que je peux toujours prendre les sources CVS et me faire un dépôt CVS local. C'est toujours possible.
Donc vous avez un tronc, quelque part, d'un logiciel. Alors ce que vous êtes en train de dire, c'est que si j'ai envie de travailler chez moi sur le logiciel, j'ai qu'à prendre la tête, copier la tête chez moi, et faire mon propre dépôt qui avance parallèlement au dépôt d'origine. Alors maintenant, vous avez apporté des changements. Les développeurs ont apporté des changements. Et vous, chez vous, vous avez fait des changements. Plusieurs. Et puis vous avez fait des branches, parce que vous avez expérimenté avec des choses. Et puis donc, vous avez dans votre dépôt local votre tronc, vous avez fait plein de choses. Vous avez mis soigneusement sur une branche les choses dont vous êtes sûr que vous voulez envoyer. Alors, quand vous voulez les envoyer, vous êtes obligé de travailler de façon pédestre. Vous calculez le diff, vous l'envoyez. Ils appliquent le diff et il n'y a aucune trace du fait que ce diff, c'est la même chose que celui-là. Donc la prochaine fois que vous voulez envoyer une modification, vous êtes obligé de manuellement vérifier est-ce que tous les changements ont été mis, quels sont les nouveaux changements, quels sont les anciens. Alors c'est faisable, c'est pas terrible. Si vos changements ne sont pas énormes, c'est pas terrible. Mais c'est typiquement quelque chose qui devrait être fait par un logiciel. Le fait que vous ayez à le faire manuellement, le fait que vous ayez à faire la gestion de qu'est-ce qui a été mis dans le tronc commun, qu'est-ce qui ne l'a pas été mis, c'est un échec du système de contrôle de révision. Avec un système de contrôle de révision, ce que vous faites ici, ce n'est pas juste copier la tête, mais c'est faire une branche avec le lien entre les deux qui reste. Et à ce moment-là, à cet endroit-là, ce que vous faites, c'est un merge. Et l'information que ça et ça, c'est pareil, elle reste dans le système distribué de la même façon qu'elle reste lorsque vous faites un merge local en CVS. Et donc, cette information, vous la retenez, et lorsque plus tard, vous allez vouloir faire un merge, vous avez, lorsque vous avez avancé chez vous, l'information que ça, c'est déjà parti. Ce n'est pas la peine de l'envoyer de nouveau. Elle existe dans le système. Donc, le système, donc les CVS multiples, chaque CVS est cohérent, mais ce sont des îles. Il n'y a aucune communication, sauf manuelle, entre ça. Le système de contrôle de révision distribuée, il vous construit quelque chose qui est globalement cohérent à partir de choses qui sont distribuées sur diverses machines. Et il retient les liens entre ces diverses choses-là. Est-ce que ça répond à votre question ou vous voulez un exemple un petit peu plus concret, plus pratique ? Alors, dans le cas de Git, oui. Donc la question c'était, est-ce que donc il existe un certain nombre de sites qui s'appellent des forges dans lesquels vous pouvez avoir pour un logiciel libre un hébergement CVS gratuit. Et la question c'est, est-ce que les mêmes infrastructures existent pour Git et pour Darx? Alors déjà, le problème n'est pas tout à fait de la même amplitude. Pour CVS, vous avez besoin d'un serveur CVS. Git et Darx sont distribués. On communique entre nous. On n'a pas fondamentalement besoin d'avoir un truc centralisé. Maintenant, on a effectivement besoin que le dépôt béni, celui qui contient les vraies sources, il soit disponible 24 heures sur 24 et on n'a pas forcément envie de le mettre sur notre machine à nous. Alors, dans le cas de Git, la réponse est oui. Il existe pas mal de forges qui aujourd'hui acceptent Git. Dans le cas de Darx, la réponse est beaucoup plus simple. Darx n'a pas besoin de serveur dédié. Il fonctionne avec n'importe quel serveur web. Donc Darx a un transport qui est extrêmement simple et extrêmement pratique. Si vous avez un serveur web, donc si vous avez votre serveur web gratuit chez votre fournisseur de services, ou si vous avez le serveur web qui vous est fourni par une forge, c'est suffisant pour loger votre dépôt Darx.
Bon, eh bien, merci Julius.
Ben, merci à vous.
Ça m'a fait le plaisir de venir. Alors maintenant, puisque les install parties, c'est aussi un petit peu l'occasion de se retrouver et puis aussi d'agrandir son réseau de confiance pour ceux qui utilisent GNUPG, il y aura une GPG Kissing Party hein, à partir de maintenant dans la salle d'install. Donc, si vous voulez, si vous avez amené vos fingerprints, vous pouvez vous faire signer. Donc, voilà. C'est également valable pour CA Cert, hein, pour les gens qui ont fait le nécessaire.